Nous avons dit que Christ a souffert pour rétablir l'obéissance dans la nature humaine. Et il nous livre une nature humaine qui est maintenant rendue capable par sa lutte d'obéissance. C'est ça l'obéissance de Christ, la victoire de Christ que nous devons nous approprier par la foi. Donc la souffrance de Christ nous apprend l'obéissance, et la souffrance avec Christ aussi, nous maintenant, si nous souffrons avec Christ, nous régnerons avec lui. La souffrance avec Christ nous apprend à nous aussi l'obéissance. Il faut à chaque chrétien un esprit d'obéissance. Chers amis, l'obéissance n'est pas seulement quelque chose de, si vous voulez, uniquement de l'action, qui tient de l'action. C'est naturellement, l'obéissance est dans l'action. Mais au-dessus de l'action, il faut un esprit d'obéissance. Si l'on n'a pas un esprit d'obéissance, ça ne marchera pas. Alors, cet esprit d'obéissance, qui va se traduire par une obéissance effective dans le comportement, dans la conduite, cet esprit d'obéissance va nous aussi nous procurer une élévation. Nous avons vu que Christ, après avoir été élevé à la perfection, nous avons lu dans notre texte, c'est toujours dans l'humanité qu'il s'agit. Dieu n'a pas besoin, lui, d'être élevé à la perfection. La divinité de Jésus n'avait pas besoin, mais l'humanité qu'il a prise avait besoin d'être élevée à la perfection. Alors, Ésaïe le disait déjà. Il montera, il s'élèvera bien haut. Donc, il est élevé à la perfection. Et le chrétien, lui aussi, va être élevé à la perfection. Il est dit que celui qui s'abaisse, celui qui reste dans l'humilité, sera élevé. Celui qui s'abaisse sera élevé. C'est toujours dans le paradoxe de l'Écriture. L'Écriture présente des paradoxes. Celui qui, pour vivre, il faut mourir. C'est le grand paradoxe. Mourir à soi, mourir au péché. Il faut mourir pour vivre. Pour être fort, il faut être faible. Il faut être faible. C'est dans la faiblesse, dit Paul, que se trouve pour lui la force. L'obéissance est d'abord un esprit et une manifestation de foi. Elle est la foi qui se soumet à la volonté de Dieu. Nous l'avons déjà dit, sans que la volonté de Dieu soit faite, il n'est pas possible d'être sauvé. Qui est mon frère, qui est ma sœur, celui qui accomplit la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce que le chrétien possède d'esprit d'obéissance, ce que le chrétien a en lui d'esprit d'obéissance, est la mesure de ce qu'il possède de Jésus-Christ. Que personne ne dise, moi je tiens de Jésus-Christ si je ne suis pas dans l'obéissance. Tu tiens rien du tout. Si tu as l'esprit d'obéissance, plus tu as l'esprit d'obéissance, plus tu as de Jésus-Christ. Ce que le chrétien possède d'esprit d'obéissance, c'est la mesure de ce qu'il possède de Jésus-Christ. Alors, nous avons encore, dans le chapitre 5, les versets 11 à 14 que nous allons lire. Chapitre 5, versets 11 à 14. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faite, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Pour faire la volonté de Dieu, il faut disposer de ce bon discernement de ce qui est bien et de ce qui est mal. Voyons un peu ce passage. Notre épître nous a prévenus du danger de négliger un si grand salut. Elle nous a mis en garde contre l'incrédulité et l'endurcissement des cœurs qui peuvent nous gagner. Maintenant, par ces quatre versets, elle nous avertit d'un troisième danger qui est celui de la paresse spirituelle. Qui est comparable, si vous voulez, à une paresse intellectuelle des enfants dans les classes. Les classes, par exemple. Dans les classes, vous voyez des enfants qui sont tout aussi intelligents ou tout autant de capacités que d'autres, hein, mais qui stagnent, qui n'avancent pas, qui n'apprennent pas bien. Hein. Pourquoi cela? Parce qu'ils sont paresseux. Paresseux d'esprit. Ils sont paresseux. Se donnent pas la peine. Pour les choses humaines, les connaissances humaines, il faut se donner la peine. Eh bien, c'est une comparaison. Il y a, dans le domaine spirituel et vis-à-vis de la parole de Dieu, une paresse spirituelle que Paul dénonce. Soyez fervents d'esprit et non pas paresseux d'esprit. Il y a une paresse spirituelle qui nous retient dans une sorte d'enfance. Ça aussi, c'est une comparaison, mais dans une sorte d'enfance, nous dit notre passage. Et cela nous rend incapables d'entrer profondément dans toutes les voies de Dieu. Une paresse d'esprit. Avant tout, la connaissance est quelque chose de spirituel. Il faut que ce soit notre esprit qui reçoive de Dieu. L'esprit du Seigneur est dans notre esprit. Il n'est pas dans notre foie, dans notre estomac, n'est-ce pas? Non, il n'est pas dans la partie charnelle de notre être, il est dans notre esprit. La suite de l'épître va nous conduire dans un enseignement difficile à bien exposer. Il y a des choses difficiles à expliquer, dit notre texte. C'est vrai, hein? Alors, nous allons être conduits dans cet enseignement difficile à exposer et qui pourrait ne pas être compris faute d'assez de ferveur, d'attention spirituelle et de maturité spirituelle. Si on reste un enfant, n'est-ce pas, ben, il faut qu'on reçoive du lait. On ne peut pas recevoir de la nourriture des adultes, la nourriture forte. Et il ne faut pas que nous en restions au rudiment des oracles de Dieu, pour reprendre encore une expression de l'Épître. En rester au rudiment des oracles de Dieu. Il faut pouvoir pénétrer plus avant dans la révélation qu'apporte l'Écriture et que l'Esprit éclaire pour nous. Il va s'agir principalement du sacerdoce de Jésus-Christ. C'est ça la grande question qui va être présentée par l'Épître. Du sacerdoce de Jésus-Christ, comprenant une phase terrestre et une phase céleste. Nous avons déjà touché un peu cela, n'est-ce pas? Jésus, il meurt sur la croix. Ah, ça s'est fait, c'est historique. Il y a un certain moment de l'histoire où ça s'est fait. C'est historique, ça s'est passé sur la terre, à Golgotha, là-bas. C'est là qu'il est mort. Bon, ça c'est une phase terrestre. Il est mort dans son corps. L'Épître va bien souligner, je le disais tout à l'heure, que c'est par l'offrande de son corps que nous sommes sauvés. Donc, il y a le corps, il y a un endroit précis, il y a un point historique, hein, un moment historique. Enfin, tout ça, c'est bien terrestre. Donc, il y a une phase terrestre. Et puis, il y a une phase céleste. Il faut que nous sachions nous transporter de cette phase terrestre à la phase céleste. Pour bien comprendre et pour faire son profit de la révélation du mystère de Christ. Le mystère de Christ n'est pas dans notre épître, mais c'est Paul qui l'emploie surtout. Mais enfin, ça ne fait rien. C'est le mystère de Christ. Mystère de Christ parce que ça ne se comprend pas autrement que par la foi, une foi qui cherche, une foi qui veut pénétrer, une foi qui demande à Dieu. Alors le mystère s'ouvre. Donc c'est un mystère, le mystère de Christ. Pour que la révélation du mystère de Christ soit bien ouverte, il importe d'avoir le cœur bien disposé et de pouvoir recevoir la nourriture des adultes, la nourriture solide. Bien sûr, certains chrétiens paraissent se contenter du savoir élémentaire, c'est-à-dire de savoir qu'ils sont sauvés, que leur place dans l'Église est une bonne chose, ils en sont satisfaits, ils se montrent même ponctuels, ils participent au culte du dimanche, ils usent de la prière, peut-être modérément, mais enfin ils usent de la prière, et puis, cela fait, ils laissent le temps aller. Allez, va, le temps marche, ils laissent aller. Moi, dira l'un, je suis fille de roi. C'est beau de dire ça, je suis fille de roi, oui. Est-ce que tu es vraiment ce que Dieu veut dans l'attention à son enseignement? Est-ce que tu reçois la nourriture que Dieu te destine? Ça vaut mieux, n'est-ce pas, que de proclamer que tu es fille de roi, parce que ça, fille ou fils de roi, bon, tu l'es, c'est Dieu qui l'a dit, mais ce n'est pas pour que tu ailles l'afficher partout, n'est-ce pas? Bon, ça doit se voir. Pas la peine de le dire. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir accepter la nourriture que Dieu nous destine. Et il ne faut pas laisser le temps aller, c'est-à-dire se laisser aller à l'insouciance et à l'indolence, à la paresse. Dans une telle position, le risque d'une rétrogradation n'est pas du tout exclu. Et en tout cas, il y a le risque d'un affaiblissement de la foi, et ce risque est certain. Un corps mal nourri s'anémie, donc un esprit mal nourri lui aussi s'anémie. Dans la vie chrétienne, il y a donc un état d'enfance et un état de maturité. Entre les deux, il y a sans doute une adolescence. Oui, bien sûr, c'est comparable à la croissance physique. D'ailleurs, nous sommes amenés à cette notion par l'Évangile lui-même, qui nous présente Jésus qui croissait en grâce, en stature, en grâce devant tous les hommes et en stature, c'est vrai, il grandissait en stature physiquement, en stature moralement, son humanité se développait, il était agréable à tout le monde parce qu'il n'y avait pas de péché en lui, hein. Et bien, sa nature s'est développée, hein, et ça c'est une image qui nous montre que nous aussi chrétiens, même si nous sommes devenus chrétiens à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, ou même à 80 ans, n'est-ce pas, eh bien, nous sommes venus dans l'enfance spirituelle. Une enfance qui était agréable, peut-être, n'est-ce pas, parce qu'il y avait là le feu du premier amour, mais il fallait grandir. Le feu du premier amour ne subvient pas à tous les besoins de la croissance, il faut de la nourriture. Donc il y a un état de maturité à rechercher, c'est ce que notre passage appelle l'homme mûr. Comme il en est de nos personnes physiques, donc il y a une croissance nécessaire qui est inscrite dans le plan de Dieu. Il faut vouloir grandir. Nous avons vu quelquefois parmi les infirmités de ce monde, des êtres humains âgés déjà, 25 ans, 30 ans et plus, dans des petits berceaux. Vous n'avez jamais vu ça? Moi j'ai vu, c'est quelque chose qui vous remue, vous savez, d'affligeant, quelque chose. Un être de 30 ans, 35 ans, dans un petit berceau. Dans un berceau, il faut le traiter comme un enfant. C'est une infirmité, je ne sais pas quelle est exactement sur le plan médical, physiologique, ce qui produit ça, je ne sais pas. Mais c'est vraiment épouvantable, épouvantable à voir. Un être humain qui n'a pas grandi, qui n'a pas cru. Eh bien, voilà, n'est-ce pas, ce que nous serions sur le plan spirituel de la vie nouvelle, si nous ne croissions pas. Il faut vouloir croître. Dieu fait croître, nous dit Paul. Il a arrosé, Apollos a arrosé, c'est Dieu qui a planté, c'est Dieu qui fait croître. Si nous n'avons pas été plantés par Dieu, nous ne sommes pas une vraie plante qui va pouvoir croître. Mais nous avons été plantés par Dieu, et c'est Dieu qui va faire croître. Mais il faut arroser la plante et nourrir la plante, ça c'est la parole de Dieu qui s'en charge. Il faut donc recevoir et assimiler les vérités révélées au moyen d'une intelligence spirituelle, non pas l'intelligence de tout le monde, mais cette intelligence dont la Bible, le livre de Job notamment, nous parle en nous disant « Tu l'as vu, toi, cette intelligence? As-tu vu d'où elle vient? Où est sa source ?» Sa source, j'ai jamais trouvé, jamais vu. J'ai cherché dans le monde, j'ai jamais vu la source de cette intelligence-là. Bon, ben, elle vient d'en haut, en effet, elle est en haut, tu ne peux pas la trouver sur la terre. C'est l'intelligence et la sagesse spirituelle dont parle aussi Paul dans 1 Colossiens chapitre 1. Intelligence, alors, il nous faut la mise en jeu de cette intelligence. Si nous sommes chrétiens, nous avons été transformés, régénérés, renouvelés dans l'intelligence spirituelle. Et il faut se décider à sacrifier le visible pour l'invisible. Il faut concevoir la vie chrétienne non à travers de tous les gestes, de tout ce qu'on peut faire dans l'église ou chez soi, mettons, n'est-ce pas? C'est pas l'édition de notre Bible, c'est pas les petits tableaux qu'on met, n'est-ce pas? C'est pas ça qui importe, c'est pas les petites avanies qu'on peut rencontrer dans la vie de l'Église qui importe. C'est, il faut chercher l'invisible. Ce n'est pas dans le visible que les solutions sont. Dans le visible, il y a les solutions se manifestent, mais les solutions ont leur source dans l'invisible. L'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens, nous ne regardons pas ce qui est visible, nous regardons ce qui est invisible. C'est-à-dire, nous ne regardons pas aux apparences, n'allons pas nous fier aux apparences. N'allons pas nous fier à ça quand on me dit, par exemple, « Ah, vous êtes chrétien évangélique, comment faites-vous, vous, comment faites-vous la communion? Qu'est-ce que vous faites? Ceci, cela, n'est-ce pas? Prenez du pain. Ah, bon, et quel pain? Et ceci, et cela, n'est-ce pas? Oui, bon, mais tout ça, c'est du vent, c'est de la vanité, c'est quelque chose qui nous égare. Peu importe le pain que je prends. Mais qui importe, c'est que j'ai le bon esprit et que je sois nourri par l'esprit, c'est que je regarde à l'amour de Dieu, c'est que je regarde aux promesses de Dieu, c'est que je regarde au sacerdoce de Jésus, je regarde dans les choses invisibles, je ne regarde pas les choses visibles, les apparences, même s'il s'agit du cadre religieux. Si le chrétien en est encore au lait, il ne parvient pas à acquérir l'expérience de la parole de justice, nous dit notre texte, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas vraiment toutes les ressources que peut procurer la parole de Dieu bien assimilée. Il ne sait pas s'en servir, il est maladroit. Comme un enfant à qui on donne des outils, n'est-ce pas? Il est maladroit, il ne sait pas s'en servir. Il n'a pas encore appris comment cette parole bien mise en pratique peut rendre fort et vaillant. Il ne sait pas ça. Face aux circonstances de l'existence, dans lequel le diable se manifeste, hein, que il y a des circonstances où le diable, là, est tout à fait présent, face aux circonstances de l'existence, il ne sait pas s'armer du pouvoir de la parole, il ne sait pas l'adapter à ses expériences, et il ne vit pas selon les principes de l'Évangile. Il convient donc d'arriver tout d'abord à assimiler la nourriture solide, celle qui est pour les hommes mûrs, c'est-à-dire à bien comprendre par l'esprit les enseignements divins pour avoir un cœur bien éduqué, bien disposé, un cœur rempli de la lumière d'en haut. Ensuite, l'usage de la vie chrétienne doit procurer de mieux en mieux, de plus en plus, une capacité de jugement sur tout. Paul dira dans 1 Colossiens 2, « Nous jugeons de tout. » Je parle de la prétention, hein, nous avons la pensée de Christ. Voilà l'homme mûr, nous jugeons de tout. Capacité de jugement, de bon jugement, et nous discernons alors le bien du mal. Quelle terrible chose que de ne pas pouvoir discerner le bien du mal. Discerner ce qui est saint et ce qui est profane. Voilà, nous retombons encore, n'est-ce pas, vraiment là, à ce que nous avons à redouter dans notre temps. Nous ne savons pas discerner ce qui est saint de ce qui est profane. Alors, maintenant, nous voyons dans nos églises, le profane prend la place de ce qui est saint. Ou alors, on fait un mélange de ce qui est saint et profane. Vous voyez, quelque chose qui est peut-être spirituel, peut-être bon selon la parole, puis c'est mélangé avec toutes sortes d'autres choses, d'autres bricoles, n'est-ce pas, néfastes qui sont empruntées au monde. C'est terrible. Il faut pouvoir distinguer ça. Et naturellement, quand on distingue le bien du mal, c'est-à-dire ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est de la volonté de Dieu de ce qui ne l'est pas, si on sait faire cette distinction, on va agir pour ne s'attacher qu'à ce qui est saint, qu'à ce qui est pur et qu'à ce qui est vraiment de la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme fait, l'homme mûr, c'est un homme d'expérience. Et Dieu veut que, dans le cours de notre vie chrétienne, nous acquérions de l'expérience. C'est un homme qui a appris à vivre chrétiennement, c'est-à-dire selon l'Évangile bien assimilé, et qui ne fait rien d'autre que cela. Il sait élaguer toutes sortes de choses. Et on lui présente de la musique, par exemple, il sait quelle est la musique qui va honorer Dieu, qui va plaire à Dieu, qui va être un encens agréable pour Dieu, de la musique qui exprime la chute du monde, qui exprime le monde dans ce qu'il a de plus vil. Il va savoir distinguer. Et il va pas nous faire des histoires en nous disant, oh, vous savez, dans les chants de victoire, il y a des airs qui autrefois étaient populaires aussi, et on les a bien pris, etc. Alors maintenant, on peut prendre aussi des airs populaires, etc. Qu'est-ce que c'est que ce charabia-là? Où c'est que vous avez vu ça dans la parole de Dieu? Vous avez vu des choses comme ça? C'est un défaut de distinction, de séparation entre ce qui est saint et ce qui est profane. On m'a tenu ce langage, je l'ai vu et par écrit aussi, ça m'irrite ça. Hein? Oh, on me dit, oui, on peut prendre des airs, ben maintenant il faut être de son temps, on prend les airs de son temps, comme autrefois, prenez les airs de son temps. Autrefois, et on a pu peut-être à certains égards manquer aussi de discernement, mais enfin, malgré tout, on a composé, c'est Saïen surtout qui a composé le registre des ailes de la foi. Et il y a tout de même là de beaux chants, de chants qui expriment quelque chose, qui disent quelque chose. Et il y a des airs qui conviennent. Chose extraordinaire, nous avons, chez les protestants, ils viennent de changer maintenant encore de livre de cantiques, mais ils avaient précédemment un livre de cantiques qui s'intitulait « Nos cœurs te chantent ». Je l'ai ce livre, et il me plaît. Il me plaît. « Nos cœurs te chantent ». Vous avez des airs saints. Des paroles droites. Et pourtant, c'est pas que je vous propose le protestantisme, un exemple. Hein. Bon. Mais enfin, là, il faut bien dire que là, il nous donne une leçon. Il nous donne une leçon. Nos cœurs te chantent. Vous pouvez ouvrir ça. Hein. Alors, évidemment, c'est pas des airs rythmés, ce sont des airs simples, des airs simples, des airs qui conviennent. Il a été bien fait, ce machin-là a été fait dans un bon esprit. Hein. Bon, mais si l'on ne sait pas, n'est-ce pas, distinguer la musique qui va pouvoir porter vraiment l'expression de la foi ou de la parole de Dieu, de celle qui sort des bas-fonds, n'est-ce pas, de ces vedettes à grand succès, hommes ou femmes, n'est-ce pas, et qui sont des horreurs, hein. Si on ne sait pas distinguer, alors, on ne peut pas dire qu'on est un homme fait. On ne peut pas dire. Un homme fait, c'est distingué. Il sait, il n'a pas besoin de ces explications, de ces justifications qu'on se donne. Vous comprenez, il faut être pratique aujourd'hui, ceci, cela. Faux. C'est affreux. Alors là, n'est-ce pas, que ce soit dans la musique ou que ce soit pour autre chose, il faut ce discernement. Si l'on n'a pas le discernement, eh bien, on ne peut pas dire que l'on est parmi les hommes mûrs, les hommes faits, les hommes d'expérience qui ont l'expérience de la parole de justice. C'est pas vrai. On montre qu'on ne l'a pas, si l'on n'a pas le discernement. Autrefois, il était demandé aux prophètes. Dieu l'a demandé à Jérémie, Dieu l'a demandé à Ézéchiel. Il faut que tu apprennes au peuple à distinguer ce qui est pur de ce qui est impur, ce qui est saint de ce qui est profane. Il faut que tu apprennes cela au peuple, tu le saches toi et que tu l'apprennes au peuple. Voilà ce que nos ministères doivent faire dans l'Église aujourd'hui. Il faut donc vivre chrétiennement selon l'Évangile bien assimilé et posséder une faculté nouvelle qui nous permettra le discernement. Paul dira le discernement des choses les meilleures, celles qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et ce discernement, un homme mûr l'exerce fidèlement. Et nous avons tous besoin d'exercer cela fidèlement. Et je terminerai ce matin en rappelant cette parole de Paul. Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui la connaît? Dites-moi, qui la connaît? Il pose la question. Qui peut lui donner des conseils? Mais nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. Alors, vous savez, c'est sérieux de dire ça. Hein? Et si on ne peut pas le dire, si on se laisse surprendre par toutes sortes de la séduction de toutes sortes de considérations purement humaines et purement contingentes, si on cherche, n'est-ce pas, à se justifier d'après le monde, d'après ce qui se fait, il faut être de son temps, il faut épouser son temps, j'ai lu ça, j'ai entendu ça, il faut épouser son temps, quelle horreur. Quelle horreur! Alors là, on peut dire foin du discernement du bien et du mal, foin du discernement des choses les meilleures. Et pourtant, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Nous ne pourrons jamais faire la volonté de Dieu si nous n'usons pas de cet excellent discernement. Que Dieu nous en donne d'abord intérieurement la conviction et qu'avec cette conviction, nous puissions exercer vraiment le discernement. Et toujours considérer à travers ce discernement ce qu'on nous dit, ce qu'on nous propose. Hein? Réfléchissons, discernons. Si ça n'est pas bon, rejetons. Rejetons catégoriquement. C'est ainsi que nous serons agréables à Dieu. Peut-être en souffrirons-nous, tant pis. Nous sommes là pour souffrir aussi. Que le Seigneur soit béni. Alors, nous arrêtons et cet après-midi, nous reprendrons tout de suite au chapitre 6.